Dès 6h45 tous les matins, la basilique Saint-Pierre ouvre ses portes aux foules immenses de visiteurs qui se pressent sous la splendeur des voûtes dorées. Certains ne sont là que pour le tourisme, mais beaucoup viennent aussi en pèlerinage sur la tombe de l'apôtre Pierre et de ses successeurs sur le siège de Rome. Comment aider ces foules de pèlerins à entrer dans la prière ? La liturgie, en particulier le chant, est un moyen privilégié de faciliter la prière des pèlerins. C'est pourquoi le chœur musical de la basilique anime avec un soin tout particulier toutes les liturgies qui s'y déroulent, à l'exception des liturgies papales confiées à la chapelle Sixtine. Le père Pierre-Paul, qui dirige le chœur de la basilique Saint-Pierre, nous aide à entrer dans la prière des pèlerins.
Nous sommes vraiment la chapelle musicale de la basilique de Saint-Pierre, donc avec le nom de Cappella Giulia, Venerabile Cappella Giulia. Et on a été fondé par le pape Jules II à la dernière année de son pontificat, en 1513. Et c'est à nous qu'appartiennent l'animation des célébrations de la basilique. Donc actuellement, ce sont les laudes, la messe et les vêpres pour les dimanches et jours de fête.
Quel style de musique est-ce que vous essayez de proposer dans les liturgies ?
Alors nous, comme la constitution apostolique du chapitre nous oblige, et c'est aussi une chose qu'on fait avec beaucoup de plaisir, à donner d'abord la première place à la liturgie grégorienne, en chant grégorien. Donc notre livre de base, c'est le Graduale Romanum, et c'est pour ça qu'on chante normalement toujours le propre de chaque liturgie en chant grégorien. Et on fait aussi de la polyphonie. On essaie maintenant de reprendre de plus en plus la grande polyphonie romaine qui appartient à cette basilique, Palestrina par exemple. Et on a même fait des messes polyphoniques de Palestrina. Ça faisait des années que ça ne se faisait plus. Ça fait déjà 2 ans qu'on fait ça.
Depuis que vous dirigez ce chœur, quelle direction vous avez essayé de prendre ? Quel changement il y a eu ?
Il faut dire d'abord qu'il y a eu une espèce d'interruption. En 1979, la Cappella Giulia a cessé son activité. Et là, il y a eu une autre chorale qui a existé depuis 1979 jusqu'à mon arrivée. Alors, c'était un chœur à voix d'homme uniquement. Et alors après mon élection comme maître de chapelle en 2008, alors le chapitre a décidé de reconstituer la Cappella Giulia. Et alors là, moi, j'ai fait venir des voix de femmes. Parce que tout notre répertoire, le répertoire de la Cappella Giulia, est un répertoire pour des voix mixtes. Enfin, des voix, c'était des enfants, il y avait des castrati. Et comme il n'y a pas d'école d'enfants proche, alors j'ai demandé à des femmes qui viennent chanter, de bonnes musiciennes. C'est comme ça qu'on a repris le répertoire mixte.
Quelle place est-ce que vous donnez au chant populaire par rapport à la musique savante dans les célébrations ?
Il faut savoir que les célébrations que nous avons, il y a des gens partout qui viennent. Donc c'est vraiment difficile de trouver une âme commune à ces gens-là. C'est pour ça qu'on fait, tous nos ordinaires de messe sont les ordinaires en latin. Ce sont ceux où les gens se retrouvent un peu. Mais dans les grandes fêtes populaires, comme la fête Dieu, les fêtes de la Vierge, là où on a une présence peut-être un petit peu plus italienne aussi à nos célébrations, alors là, on fait des chants populaires, vraiment très populaires. La procession du Saint-Sacrement qu'on fait dans la basilique, le jour de la fête Dieu, on fait que des chants populaires et les gens chantent. Alors, on donne libre cours à leur foi.
Est-ce que les liturgies à Saint-Pierre peuvent être vues un peu comme des modèles pour ce qui se pourrait se faire ailleurs, ou alors c'est trop romain pour être exportable ?
Non, mais il y a des choses qui sont exportables. Je crois qu'il y a un style, il y a un respect aussi pour la liturgie qui, ça, peut être un modèle, je pense. Parce que partout où on est dans le monde, on doit traiter la liturgie de la même manière, hein, je pense. Le même respect et le même accueil, parce que c'est jamais ma liturgie à moi, c'est toujours la liturgie de l'Église que je célèbre. Et ça, je pense que c'est universel. Peut-être, alors, le fait que nous ayons la liturgie complètement en latin, à l'exception des lectures, ça, c'est moins présentable dans les autres pays. Mais je pense qu'il y a certaines choses du chant grégorien qui peuvent être reprises un peu partout. Les derniers documents sur la musique sacrée le demandent, hein, pour créer un peu cette espèce aussi d'universalité de l'expression de la foi par la musique.
Et alors, quand vous proposez des chants, est-ce que vous pensez aux pèlerins qui viennent, à l'expérience spirituelle qu'ils peuvent avoir en venant à Saint-Pierre ?
Quelquefois, dans les années précédentes, lorsque je savais, par exemple, qu'il y avait un groupe de pèlerins qui venaient de Russie, où on avait des gens même orthodoxes, mais qui étaient là présents, alors je l'ai su avant, alors on a fait un psaume en russe pour eux. lorsque je sais qu'il y a un certain groupe, on peut essayer d'en tenir compte un petit peu. Mais d'abord, on ne le sait pas tout le temps d'avance. Hein. Et puis, on a quand même une grosse assemblée. On a peut-être 2000 personnes qui viennent à la messe le dimanche. Donc, il faut essayer de tenir compte un peu de tout le monde. Alors, on se retrouve un petit peu avec le latin.
Qu'est-ce que la musique apporte aux fidèles dans la liturgie?
Nous, on ne s'en rend pas toujours compte. Hein. Certainement, pour moi, c'est la base de ma vie de prière. Je pense que les choristes aussi, ils trouvent beaucoup d'aliments pour leur propre foi. Parce que lorsqu'on fait des répétitions, on a l'occasion de dire des choses sur des textes que nous chantons. Et je dois peut-être un peu une confidence. Il y a un des confesseurs de Saint-Pierre qui m'a dit « Ah, vous savez, dans votre ministère de musique, vous m'aidez beaucoup. » Parce qu'il y a des gens qui entrent dans la basilique et qui entendent ce chant et ils ne savent pas trop. Ils viennent me voir. Ils voient que je suis là au confessionnal. « Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils chantent là ?» Alors, il explique un peu. C'est un dialogue qui commence et c'est un dialogue qui aboutit à la foi. Je pense qu'il y a quelque chose. C'est une musique, spécialement la musique grégorienne et la grande polyphonie, ce sont des musiques qui, en soi, portent une grande charge spirituelle.
Donc, pour vous, comme prêtre, c'est un ministère, en fait?
Oh, c'est tout à fait un ministère. Tout à fait. C'est presque mon ministère principal, hein, comme prêtre. C'est le ministère de la beauté. Hein. On n'y pense pas souvent. Mais il y a le ministère de l'annonce de la parole, il y a le ministère des sacrements, mais il y a aussi le ministère de la beauté dans l'Église. Et ça, c'est une expression.
Ce service, ce ministère de la beauté, il amène à Dieu directement?
Je pense. Pour beaucoup de gens, c'est des gens qui entendent ce que nous faisons. Si on le fait avec le bon esprit, hein, on n'est pas là pour donner des concerts. Et ça, je l'ai dit aux choristes. Lorsqu'on a répété, il arrive le moment de la célébration, alors là, c'est vraiment un moment de prière. Lorsqu'on a un peu reconstitué la Cappella Giulia, j'ai parlé aux choristes, je leur ai dit, vous savez, une chose très importante pour nous, c'est que nous partageons la foi. On doit tous être engagés vers la sainteté, tout le monde ici. Que le maître de chapelle, les choristes, l'organiste, on doit tous, selon notre chemin, et ça change la manière qu'on chante. Et je pense que c'est important.